Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France Bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, c'est un phénomène depuis 2021. La bande dessinée continue de voir ses ventes s'envoler. Cette dynamique doit à la folle croissance des mangas, les séries dessinées importées du Japon, qui cartonnent. Alors pourquoi ça marche? Comment on innove dans ce domaine? On va en parler avec la présidente des éditions Glénat, premier éditeur indépendant sur le secteur de la BD et du manga. Sa patronne Marion Corveller-Glénat est l'invitée de La France Bouge. À la une, c'est quasi unique en France, une école qui forme au métier dans les mangas des illustrateurs ou des animateurs 2D, 3D. Elle s'appelle EIMA, c'est à Toulouse. Déjà deux promotions pour ce cursus de 5 années et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, je vous emmène dans la plus ancienne librairie de Paris, elle est dans le premier arrondissement face à la Comédie Française. C'est la librairie De la Main et c'est la saga des jours de Charlotte Barrican. Rendez-vous à 13h30 pour le récit. Le pitch des Trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on va recevoir Little Totem. Ce sont des coffrets de livres culottés et créatifs pour les 0-10 ans.
Allez, rendez-vous à 13h45 et puis en fin d'émission, demain je change de vie. Sylvaine Pia travaillait dans les ressources humaines. Elle est devenue chef de chantier et aujourd'hui elle est écrivain. Eh bien oui, c'est ça, la France bouge, on a de l'audace. Bienvenue, vous pouvez nous suivre sur europe1.fr, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge, ce sont toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, hein, c'est ici. Et le marché de la BD bat tous ses records, hein, c'est ce que l'on appelle un phénomène. Bonjour Marion Corveller-Glénat.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci de votre accueil.
Bienvenue dans La France bouge, vous êtes la présidente du directoire des éditions Glénat, entreprise familiale, c'est votre papa Jacques.
Exactement.
Qui a fondé la maison en 1974, c'est ça?
Il a fondé, alors un peu plus tôt que ça.
Plus tôt, hein, 52 ans, c'était il y a 52 ans.
Hein. On va même fêter nos 53 ans. Enfin, on va pas les fêter, mais en tout cas, on va avoir 53 ans cette année.
53 ans pour les éditions Glénat, entreprise grenobloise. Et vous avez connu une croissance fulgurante, on peut le dire, hein, ces dernières années. 180 collaborateurs. Comment ça va aujourd'hui?
Mais ça va bien, ça va bien. Vous parliez de la BD et du manga. Alors effectivement, on assiste à une croissance extrêmement forte sur le manga, puisque le marché a doublé l'année dernière. Mais ça a toujours été un segment très dynamique et toujours en progression d'année en année. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a vu ce phénomène s'amplifier de manière exponentielle,
très importante. Quand vous dites que ça va bien, quel est le chiffre? Nous, on aime bien avoir des chiffres, ça nous permet de bien comprendre.
Les chiffres sont très clairs, on fait 60% de croissance en 2021 par rapport à 2020.
Eh ben voilà, une croissance de 60% sur le chiffre d'affaires entre 2020 et 2021.
Donc on passe d'un chiffre d'affaires, ce qu'on appelle nous prix public, c'est-à-dire en prix de vente, puisqu'on a un prix de vente unique en librairie, qui est défini par le cadre de la loi Langue. Le libraire est obligé de pratiquer ce prix de vente. Donc, on parle de chiffre d'affaires en prix public en librairie. On est passé d'un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à 160 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Mmh.
Voilà. Donc, aujourd'hui, ça s'est complètement ouvert sur le monde, hein, sur tout le monde, sur les femmes, les hommes, les enfants. Aujourd'hui, plus une librairie qui n'a pas son rayon BD.
Alors, plus une librairie. Alors déjà, c'est bien que vous en parliez parce que le manga, il y a encore 20 ans ou 10 ans, on avait des libraires qui nous disaient « moi, le manga, jamais ».
BD, manga, c'est pareil?
Alors, nous, dans nos panels, ce qu'on appelle nos panels distributeurs qui nous permettent d'évaluer le marché, c'est BD, manga. Mais il y a un moment, il va falloir qu'on les sépare parce qu'effectivement, le manga commence à...
Oui, parce que le manga, vous avez des
très,
petits
très
bouquins forme 10-15 cm. Et pour nous, la BD, c'est la grande planche, c'est le grand format.
Exactement, exactement. Mm. Et le manga, pour revenir sur ce phénomène-là, c'est... Je dis toujours, le manga, c'est des très belles histoires. Il y en a pour tous les sujets, tous les âges, tous les lectorats. C'est du petit prix.
Mais pour nos auditeurs, comment aborder, entrer dans cet univers du manga? D'abord, ça ne se lit pas dans le même sens. Donc, il y a tout un apprentissage aussi à faire.
Alors, il y a tout un apprentissage. Il y a 20 ans, c'était complètement nouveau. Et la preuve, c'est que nos parents nous disaient « mais arrête de lire dans le mauvais sens, ça va te rendre dyslexique ». Aujourd'hui, nos enfants, vous voyez bien que la culture japonaise a complètement envahi l'Europe. À l'époque où mon père a amené le manga en France, il y avait peut-être deux vols Paris-Tokyo par semaine. Aujourd'hui, on a des sushis, je sais pas, avec tous les coins de rue, les arts martiaux. Enfin voilà, la culture japonaise est chez nous. Et donc, vous verrez, les enfants passent de la lecture à l'envers, à la lecture à l'endroit, avec une facilité absolument incroyable.
Du coup, effectivement, donc, alors, j'ai un lecteur de manga à la maison. Alors, petit prix, oui, mais quand il y a 100 épisodes à acheter, à 6,90€ l'épisode, à la fin, ça chiffre un peu quand même. Du coup, en fait, nos enfants apprennent le japonais. Ils rêvent tous de découvrir le Japon. Est-ce que vous pourriez aller vers des expériences qui pourraient prolonger en fait, la lecture, je sais pas, des webinaires avec des auteurs, des échanges entre écoles françaises et japonaises, faire intervenir des clubs de lecture, enfin des choses qui leur amènent le Japon à la maison, parce qu'on ne va pas y aller tout de suite, en fait.
Alors, vous avez raison. Donc, nous, Glénat, on est pionniers et leaders sur le marché du manga, puisqu'on a été les premiers à l'importer. Donc, il faut qu'on garde notre place et qu'on propose justement des nouvelles choses, des nouveautés, des nouvelles façons de consommer à nos lecteurs qui, vous avez raison, sont des fans et qui attendent le jour même la sortie du...
Oui, je vois bien.
Et donc, on est sans arrêt justement en train de se renouveler, notamment en proposant désormais ce qu'on appelle de la simultrade, puisque en fait, les mangas sortent au Japon. Le temps de les traduire et de les fabriquer, normalement, ils sortent après en France. Mais comme on a une communauté de fans absolus qui sont déjà au courant de ce qui se passe au Japon avant
qui traduisent
manga,
entre eux, d'ailleurs.
Qui traduisent entre eux, désormais, à la même minute que celle à laquelle le Japon le met en ligne, nous avons nos mangas sur notre propre plateforme qui s'appelle Glénat Manga Max. Et donc, les lecteurs peuvent lire en même temps, à l'heure même où ça sort au Japon.
Voilà. Ils sont très bien organisés. Pour que tous nos auditeurs comprennent, votre plus forte vente de mangas, c'est quoi ?
One Piece.
Alors, c'est One Piece. C'est la série numéro 1 du marché.
C'est pas Dragon Ball Z ?
Alors, Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball puis Dragon Ball Z. C'est historique. Alors, 30 millions d'exemplaires vendus sur Dragon Ball.
C'est de l'expertise.
Dragon Ball, c'est pas la même chose.
30 millions d'exemplaires vendus. Ça a été le premier manga en fait, qui a bien marché à l'époque du Club Dorothée, qui a été la meilleure.
Non, mais c'était pas Candy. Ah, mais nous, on a demandé Candy, le premier manga quand même, et Goldorak.
Oui, c'est vrai.
Bah oui.
C'est vrai.
C'est vrai que c'était une forme de manga.
Mais oui,
c'est vrai. Vous avez raison. On va continuer à parler des mangas. Dans un instant, Marion Corvelaire-Glénat, vous êtes la présidente du directoire des éditions Glénat. Vous nous l'avez annoncé là sur Europe 1. Plus 60% de chiffre d'affaires entre 2020 et 2021. C'est un carton, les BD et les mangas. Vous restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises. Et aujourd'hui, on parle BD et manga avec vous, Marion Corvelaire-Glénat. Vous êtes la présidente du directoire des éditions Glénat et sur un marché de la bande dessinée florissant. 7 mangas se sont hissés l'an dernier dans le top 10 des meilleures ventes et plus d'une BD vendue sur deux en 2021 a été un...
succès.
Un manga. Alors on s'est dit qu'il y a sûrement un métier peut-être derrière ce succès, peut-être des formations, et on l'a trouvé. Bonjour Claire Pellier.
Bonjour et merci de me recevoir.
Merci à vous. Vous êtes la fondatrice de l'École internationale du manga et de l'animation, c'est l'EIMA, E-I-M-A. C'est une école récente puisqu'elle existe depuis 6 ans. Et vous Claire, vous avez toujours été passionnée de manga. À la base, vous êtes professeure d'art plastique. Et vous avez réussi à réunir vos deux passions en créant à Toulouse cette première école de loisirs manga.
Alors la première école, oui, qui était Toulouse Manga, que j'ai fondée en 2012, qui est effectivement à l'origine de l'EIMA, qui a été fondée en 2016,
parce que mes
élèves voulaient devenir mangaka.
Mais c'est incroyable. C'est quoi être mangaka, pour qu'on comprenne, c'est quoi
Alors,
ce métier
mangaka, c'est être auteur de manga. Ça peut aussi bien être la personne qui dessine que la personne qui crée le scénario ou qui fait les deux à la fois.
D'accord. Donc, être mangaka, donc, c'est être totalement dans l'univers du manga. Sauf que cette école de loisirs, la première que vous avez créée en 2012, vous réalisez que vos élèves souhaitent se professionnaliser. Et c'est comme ça donc, que vient cette école internationale du manga et de l'animation. Vous les formez à quoi ? C'est quoi le cursus si on intègre votre école ?
Alors, on les forme à beaucoup de choses parce que nos élèves sont des artistes, ce sont des auteurs et des autrices. On les forme aussi bien au scénario, au dessin, à la narration, au découpage, au storyboard, à l'illustration, au concept art, au character design. En fait, pour être mangaka, il faut être à la fois metteur en scène, scénariste, acteur, costumier, décorateur, narrateur. Donc, on a énormément de matière avec... Je vous en prie.
Non, mais c'est vous qui avez défini donc, le profil de ce métier ?
Alors, pas seulement moi, en fait. Mmh. Pour fonder cette école et pour fonder notre cursus, je me suis alliée à des mangakas japonais et à des écoles japonaises qui sont les mieux placées pour savoir comment enseigner tout ça. Et c'est notamment avec une mangaka japonaise, Chiharu Nakashima, qui est venue s'installer en France à partir de 2013, qu'on a réussi à fonder tout ça à travers son expertise en tant qu'ancienne professeure à l'université de Kobe et ma connaissance du manga en France.
On fait comment pour y entrer dans votre école ?
On envoie un dossier tout d'abord, puisqu'il y a effectivement une première étape. On veut connaître les candidats et voir leur capacité en dessin. Et ensuite, on les convoque sur un stage qui dure 3 jours, pendant lesquels on leur fait des cours et on leur fait passer des tests, pour que ce soit un double choix. C'est-à-dire que nous, on teste effectivement leurs compétences, mais qu'eux testent également le cursus.
Oui, voir
et
si ça leur plaît
si
vraiment.
C'est vraiment ça qu'ils veulent faire.
Et que disent les parents ? Parce que mangaka, quand même, honnêtement, entre nous, c'est pas un métier, franchement, ma madame.
C'est vrai, c'est un métier qui existe.
C'est un discours qu'on entend de moins en moins,
bravo.
Puisque vous en parliez juste avant. Nous sommes la deuxième génération, donc maintenant on a toute une génération de parents qui ont été élevés au manga et pour qui, si, être mangaka, c'est un métier formidable. Ils sont ravis d'aider leurs enfants à atteindre ce métier-là.
Mais ils trouvent du travail après ?
Alors, on a 2 promotions qui sont sorties pour l'instant, donc on est en train de fonder nos statistiques de retour. On est aux alentours des 70% à l'heure actuelle, mais surtout en fait, maintenant on a directement des éditeurs qui proposent des contrats à nos élèves avant même leur sortie de cursus. Et par exemple, sur notre dernière proposition, 50% de nos élèves avaient des propositions d'édition avant d'avoir terminé leur cursus.
Pourquoi il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre dans le manga et dans la BD Non, franchement.
En fait, le manga français est en train de percer avec beaucoup de qualité en France et la plupart des maisons d'édition cherchent vraiment à avoir leur branche de manga français, donc leurs auteurs. Et effectivement, trouver des auteurs formés en France qui savent raconter avec vraiment cette fibre japonaise, c'est pas toujours évident. Donc effectivement, on a des maisons d'édition qui
sont à la recherche des pépites rares et qui viennent vers vous, Claire Pellier. Marion Corvelaire-Glénat, vous êtes notre grande patronne du jour, présidente du directoire des éditions Glénat. Vous en pensez quoi de ce genre d'école ?
Mais je pense que c'est très bien, je vous félicite et je crois même qu'il y a certains éditeurs de la maison Glénat qui ont participé à votre cursus de formation, il me semble. Et je crois même que nous avons publié un de vos élèves.
Ah bah dis
exactement.
Donc.
Ah,
parfait.
Ils donc, se connaissent bien, c'est un petit milieu le manga.
Non mais on
en a besoin en fait.
En fait l'idée c'est de plus importer de licence japonaise.
Alors d'abord, il y a de plus en plus d'éditeurs sur le manga, puisque comme vous le dites, c'est un succès assez important, donc tout le monde s'y intéresse. On essaye tous d'avoir les meilleures séries au Japon, d'aller chercher celles qui sont le plus suivies, ça c'est côté japonais, mais effectivement c'est de notre métier d'éditeur que de créer, que d'aller chercher des nouvelles histoires, des nouveaux auteurs, et la création française est un des axes de développement important, donc c'est bien, mais il faut quand même que, comme vous disiez, que ça soit vraiment avec une culture japonaise.
Alors tout ça nous donne envie, 2 promotions, plus d'une centaine d'élèves, mais le problème c'est que l'école elle n'est pas encore reconnue par l'État, mais vous travaillez dur pour que ce soit le cas, pour que ce soit un niveau école. Alors, Bac+3, c'est ça?
Bac+3, Bac+5, effectivement, on y travaille à l'heure actuelle avec le rectorat de Toulouse. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout un problème pour l'instant, puisqu'on a la chance d'être en partenariat avec de grandes maisons d'édition, parmi lesquelles, effectivement, on a travaillé et on continuera de travailler avec Glénat, qu'on apprécie beaucoup, mais aussi avec Kana, Ankama, Kaze, Kiyun, enfin vraiment. Mmh. On a plusieurs maisons d'édition comme ça qui viennent faire passer directement les soutenances de nos élèves. C'est-à-dire que ce sont les éditeurs qui valident ou non, la formation de nos élèves.
D'accord.
Donc pour moi, le fait qu'on ne soit pas reconnu à l'heure actuelle, ce n'est pas un problème, ça parce pas... que c'est encore mieux.
Et puis 60% de taux d'employabilité après l'école, pour l'instant, franchement, c'est 70%, c'est pas mal. Elle coûte combien votre école, Claire Pellier, donc l'école internationale de manga et de l'animation?
Alors ça dépend des années, puisqu'en fait le tarif est en fonction du volume horaire de cours dans l'année. Donc les années où il y a le moins de cours, on est aux alentours des 4 200-4 500 € par an. Mmh. Et les années qui sont les plus chargées, donc les années de tronc commun en fait, où les élèves vraiment découvrent l'ensemble des possibilités avant de se spécialiser, on est à 6 650-6 700 €.
Ouais, donc ça reste dans les prix des écoles, Nathalie Carré.
Exactement,
Carré, hein.
Complètement.
La CCI, vous avez des écoles de ce prix-là. Hein.
Oui, alors
même
on a...
plus. Hein. Bon,
pas dans les mangas, mais oui.
Pas dans les mangas, encore.
Enfin encore.
Claire Pellier, la suite, c'est quoi? Vos étudiants, ils sont tous français ou vous avez déjà une certaine popularité auprès des étudiants étrangers?
Alors, depuis le départ, on s'appelle École internationale du manga et l'animation parce qu'on a cette volonté vraiment d'être ouvert au monde, aussi bien dans nos partenariats avec le Japon qu'au niveau des étudiants. Et jusque-là, on a accueilli pas moins de 20 nationalités différentes entre la Thaïlande, le Mexique, l'Andorre, la Suisse, l'Espagne, le Ghana, enfin, vraiment la Russie. On a une population d'élèves très, très éclectique et très diversifiée et c'est ce qui fait une énorme richesse de notre formation également.
Formidable. Ça s'appelle l'École internationale du manga de l'animation, l'EIMA. Merci à vous Claire Pellier d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Marion Corvelaire-Glénat, vous êtes la présidente du directeur des éditions Glénat et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge cette France et nous le voyons chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui on parle BD et manga et nous sommes ravis d'être avec vous Marion Corvelaire-Glénat. Vous êtes la présidente du directoire des éditions Glénat. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et justement on va rester avec vous Marion Corvelaire-Glénat sur ces éditions Glénat. Vous êtes la deuxième génération, c'est votre papa qui a fondé cette maison d'édition. Ça marche très bien, vous nous l'avez dit, hein, plus de 60% de chiffre d'affaires entre 2020 et 2021. Comment vous allez vous y prendre pour développer une entreprise qui est en pleine croissance, hein ? Sur quel sujet vous allez pouvoir développer le business ? Puisque ça marche très bien, mais c'est quand même très concurrentiel. Puisqu'on l'a vu depuis le début de l'émission, la BD et le manga, tout le monde s'y met, il y a même une école, tout le monde s'y met.
C'est une très bonne question, merci de la poser. Non, mais d'accord, effectivement, effectivement, grosse croissance et grosse explosion du chiffre d'affaires sur la BD et le manga. Quand je vous parlais d'un lectorat qui est de plus en plus large, je pense qu'aujourd'hui, en bande dessinée, on peut parler de tous les sujets. Quand avant, on était quand même... Il y avait des rayons très spécifiques en librairie. Aujourd'hui, on parle de tout. Donc ça, c'est
oui, parfois même quand on était jeune, on avait l'impression que le rayon BD pour adultes, c'était hyper interdit. Il y avait des trucs qu'il ne fallait pas qu'on aille voir. Non, mais c'est vrai.
Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est dans tous les rayons des librairies. Comme les libraires s'y intéressent, on a une espèce d'offre et de visibilité qui est de plus en plus complète et importante en librairie. Donc forcément, ça amène aussi un public plus jeune, plus féminin. Beaucoup plus large que ça ne l'était.
Beaucoup plus large. Et puis en plus de ça, par exemple, on revient sur les mangas. Je crois même qu'il y a des psychologues parfois qui travaillent sur l'histoire. Enfin, c'est quelque chose de très travaillé pour en arriver à ce résultat-là. Ce n'est pas juste une histoire comme ça.
Je suis ravie de vous l'entendre dire.
Non, mais c'est vrai. Non, mais on l'a vu avec Nathalie Carré en préparant l'émission.
Vous voilà réconciliée avec tous les parents.
Mais il y a une espèce de caution scientifique qui rassure quand même.
Bien sûr, je vous disais le manga tout à l'heure parle à tous les publics. C'est très classifié en fait au Japon. On a ce qu'on appelle les shonen, c'est plutôt ado, plutôt baston, aventure. Il y a les seinen, c'est plutôt pour les adultes, donc des histoires plutôt pour les adultes. Et puis ce qu'on appelle les sojo, c'est plutôt pour les jeunes filles. One Piece, lisez cette série, donc je vous disais, c'est la première du marché. C'est 4 millions d'exemplaires vendus en 2021, donc c'est bien plus qu'un prix Goncourt. Ça raconte les aventures de Luffy, qui est ce pirate qui veut aller créer son équipage pour trouver le trésor. Ça apprend les valeurs de l'amitié, de la rédemption, du courage, du pardon. Enfin, c'est plein de valeurs qui sont magnifiques pour nos enfants. Alors effectivement, c'est du papier noir et blanc, comme on disait, beaucoup d'onomatopées, peu de texte. Parfois, on peut
en
même dire...
En termes de richesse lexicale,
Mais il n'empêche que ça développe l'imaginaire de nos
enfants.
Et
ils les comprennent, cette deuxième lecture de toutes ces valeurs, ils les comprennent, nos ados ?
Ils les comprennent. Oui. Je vous garantis qu'ils le comprennent.
Alors Marion Corvelaire-Glénat, derrière tout ce succès, on le sait, l'édition fait face, comme beaucoup d'autres secteurs, à une pénurie de matières premières. Le papier, notamment, je pense au papier, hein, manga, BD, ça manque partout dans le monde. Est-ce que vous arrivez à répondre à la demande ?
Alors ça a été très compliqué pendant un an et demi. D'ailleurs, j'adresse encore toutes mes excuses à l'ensemble des libraires qui n'ont pas reçu leur commande. C'est très compliqué parce qu'en fait... tous ces grands papetiers industriels se sont désengagés de ce qu'on appelle la fabrication de papier graphique. Aujourd'hui, c'est plus rentable de faire des enveloppes en carton pour les .com ou des fourchettes et des cuillères en carton quand avant elles étaient en plastique.
Vous voulez dire pour les sites internet, pour les livraisons.
Pour les livraisons en ligne. Donc oui, on a fait face à une pénurie. Et en plus de ça, ce qui a créé la pénurie, c'est qu'en fait, la demande a explosé sur la lecture en général.
On voulait tous lire.
Et vous ne pouvez pas faire un GIE, tous les éditeurs, là, et puis avoir votre
groupement,
un groupement.
Alors, nous, la chance qu'on a chez Glénat, c'est qu'on achète notre papier. certains éditeurs passent par les imprimeurs. Nous, on a toujours acheté notre papier. Donc,
donc nécessite... en fait, d'habitude, vous vous approvisionnez, par exemple, sur 4-5 semaines avant la sortie du livre.
Voilà, oui,
maintenant, vous anticipez. Vous
là, on est en train d'acheter le papier pour le mois de nos sorties du mois de novembre.
Voilà, donc plus de 12 semaines, voire plusieurs mois.
Bien plus.
Et ouais. Donc, vous avez revu vos manières de vous organiser.
On a totalement revu nos process en interne.
Face d'abord, à cette pénurie de papier.
On est allé chercher d'autres imprimeurs, d'autres papetiers, alors qu'avant, on travaillait sur un panel habituel. Mm-hmm. On a trouvé nos manières de travailler. Et surtout, nous, ça a été un vrai travail éditorial dans nos maisons, c'est de dire qu'il fallait être prêt bien plus en amont que
bien
ce qu'on
sûr.
Était
Est-ce que ça veut dire, Marion Corvelaire-Glénac, le papier, donc il devient plus rare, est-ce que ça va devenir plus cher? Et donc, est-ce que ça signifie que ce que vous allez proposer, vos livres, vos BD, vos mangas, vont augmenter, les prix vont augmenter?
Alors déjà, c'est plus cher depuis déjà un an. C'est-à-dire que sur, par exemple, le papier du manga, on a pris 40% d'augmentation sur le manga.
Ah oui.
Ça dépend des papiers, c'est du bouffant sur le manga et du couché sur d'autres BD, mais tout augmente. En plus du coût de l'énergie de l'imprimeur qui augmente aussi ses prix. Enfin, vraiment, c'est une spirale inflationniste assez importante. Donc, on est très vigilants sur les prix. Sur le manga, on va maintenir nos prix pour le moment. Et puis, on va peut-être voir ça plutôt sur le deuxième semestre 2022. Sur la bande dessinée, comme je vous disais, ce sont des objets. Chaque BD est un objet. Raconte une histoire particulière est un objet particulier. Donc la tendance des prix est quand même à la hausse, mais nous, Glénat, on a la chance d'avoir les épaules solides, les reins solides, et donc on ne veut pas faire subir aux consommateurs
ce que
nous...
Donc pour l'instant, pas d'augmentation de prix.
Pour le moment, on fait très attention à ça.
Ouais. Alors chaque jour dans La France Bouge, Marion Corvelaire-Glénat, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'un endroit qui ont traversé les années, qui sont toujours là en France aujourd'hui. On va partir à la librairie De la Main, c'est la plus ancienne librairie qui est encore en activité à Paris. Elle est née au XVIIIe siècle, elle a connu des rebondissements, mais elle est toujours là. Elle a plus de 25 000 titres sur un espace de près de 90 mètres carrés. Et la librairie De la Main, c'est la saga du jour racontée par Charlotte Barrican.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Nous sommes en plein cœur de Paris, sur la place Colette. Derrière nous, la Comédie Française. Et de l'autre côté du trottoir, vous pouvez voir la plus vieille librairie parisienne encore en activité, la librairie De la Main. Elle n'est pas très grande, mais ses bibliothèques font plusieurs mètres. Il y a des livres jusqu'au plafond, vous en avez le tournis. Cette librairie a été fondée en 1708 par André Caillot, un libraire et éditeur, une fonction très prestigieuse à l'époque. Mathilde Guiraud, directrice de la librairie De la Main.
C'est une institution culturelle et patrimoniale. Elle n'a pas toujours été à l'emplacement où elle est aujourd'hui. Elle était située avant 1900 sous les arcades de la Comédie Française, donc de l'autre côté de la rue. Et évidemment, elle a brûlé en même temps que le Français en 1900. Elle a occupé quelque temps un local rue de Richelieu et elle est dans les murs dans lesquels on se trouve aujourd'hui depuis 1905.
Historiquement, la librairie De la Main se spécialise dans les pièces de théâtre. Et avec l'arrivée à sa tête de Pierre-Victor Stock, le fondateur des éditions du même nom, elle devient alors la librairie des Dreyfusards. En 1921, son nom change, c'est la librairie De la Main, au moment où Maurice De la Main en devient le gérant. Plus qu'une librairie, c'est un témoin de l'histoire avec un grand H.
Il y a des écrivains et des grands noms, que ce soit de la littérature ou même de la politique, où l'on sait qu'ils sont passés ici parce qu'ils l'ont dit ou ils l'ont écrit. Et il y en a d'autres dont on se doute qu'ils sont passés dans ces murs, puisque ce n'est pas possible qu'il en ait été autrement. Évidemment, Colette, qui habitait à deux pas, fréquentait la librairie assidûment, ainsi que Cocteau, Maupassant est passé par ici. Et encore aujourd'hui, elle est très fréquentée par beaucoup d'écrivains, de philosophes, d'historiens, de comédiens. On a aussi beaucoup de personnalités politiques. C'était notamment la librairie où François Mitterrand constituait sa bibliothèque de livres anciens, par exemple.
Et parmi les personnalités qui ont fréquenté la librairie, certaines sont venues chercher l'inspiration qui leur manquait.
Un jour, en 1955, un jeune homme fou de cinéma a fouillé dans les bacs à l'extérieur, puisque une des petites particularités aussi, c'est que de juin à septembre, il y a un étalage à l'extérieur vraiment à l'ancienne, et a trouvé un livre qu'il a beaucoup aimé et qu'il a plus tard adapté. C'était François Truffaut et c'était Jules et Jim. Il l'a acheté ici, il l'a beaucoup raconté.
En France, les livres coûtent le même prix partout, alors les clients franchissent les portes de la librairie De la Main pour autre chose.
La librairie De la Main, c'est quand même une librairie qui a une ambiance extrêmement singulière. D'abord parce qu'on a quand même l'impression d'entrer presque dans un monument historique, en fait. D'ailleurs, elle est présente dans beaucoup de guides. Nous, on fait très attention à la fois valoriser, aimer et entretenir cet aspect patrimonial, historique, il y a quelque chose qui nous dépasse dans l'histoire de cette librairie. On n'est qu'une toute petite partie, en fait. Mais nous, on fait aussi attention à avoir une équipe jeune, dynamique, de très gros lecteurs. On suit l'actualité éditoriale de très près. Et il y a un commentaire sur Internet qui nous a été mis il n'y a pas longtemps où quelqu'un a dit « J'adore aller chez Delamain, j'y trouve toujours le livre que je ne cherchais pas ». Je pense qu'on ne peut pas nous faire de plus beaux compliments.
Depuis la crise du Covid, les Français redécouvrent le plaisir de la lecture et ce succès profite à Delamain. La librairie enregistre une hausse de la fréquentation de 12% par rapport à l'an dernier.
C'était la saga du jour racontée par Charlotte Barrican de cette librairie, la plus ancienne librairie encore en activité à Paris, la librairie Delamain. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI et notre patronne du jour, Marion Corvelaire-Glénat, présidente du directoire des éditions Glénat. D'ailleurs, vous vous diversifiez, Marion Corvelaire-Glénat, au sein de cette belle maison d'édition spécialisée dans les BD, dans les mangas, mais vous venez de racheter Hugo Publishing. Hein, c'est une autre maison d'édition, donc c'est une façon aussi pour vous d'aller plus loin dans vos activités, parce que ça n'a rien à voir avec les mangas et la BD, là, cette maison d'édition.
Absolument, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est rapprochés, parce que d'abord, on avait des gènes communs, j'allais dire une espèce d'histoire commune, familiale, indépendante.
C'est aussi une maison familiale.
C'est aussi Arthur de Saint-Vincent qui la dirige aujourd'hui. C'est son papa qui l'avait fondée.
Donc un petit point commun.
Qui est décédé depuis. Mais voilà, on a des valeurs communes et une façon d'avoir vécu
l'entrepreneuriat familial, la croissance.
C'est presque notre grand frère. Hein. Enfin, moi, je dis toujours que Glénat, chez mes parents, c'était mon grand frère. Et puis surtout, aujourd'hui, on publie à peu près 800 titres par an. On fait beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de mangas. Le marché a une production très active là-dessus. Donc, je pense qu'on est arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait faire. Il faut qu'on fasse de bonnes BD pour de bons lecteurs, savoir à qui on les adresse. Donc, une production plus importante sur la BD, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et je préférais que nos catalogues viennent se compléter d'autres publics. Et cette maison, Hugo Publishing, est spécialisée dans la new romance.
Alors, c'est quoi la new romance? Parce que ça, c'est encore un nouveau genre.
Un truc de fille, je crois. La new romance, mais pas que. Je pense à 99% féminine, mais j'ai vu des hommes en lire. C'est ce qu'on peut appeler de la...
C'est du roman érotique, quoi.
C'est pas que érotique.
Romantique.
Romantique, voilà. Ça commence par du romantique et ça peut aller vers l'érotique.
Un peu l'érotisme.
Mais ça commence par du romantisme.
C'est nos libraires. Comment ça s'appelait? Harlequin? C'était ça
Si Arthur m'entendait dire ça, non. Il hurlerait. Mais c'est du Harlequin modernisé.
C'est du Harlequin 2022.
C'est ce que vous avez vu, là, ce qui a démarré ce marché, c'est Fifty Shades of Grey.
C'est 51 degrés ou After en livre.
Exactement.
D'accord.
Et After, c'est donc chez Hugo.
Ah, c'est chez Hugo, très bien. Donc, vous venez de racheter cette maison d'édition. Et d'ailleurs, vous avez même mis en place toute une communauté, je crois, qui vote et qui sur le site internet et qui va dire oui, est-ce que j'ai envie de lire la suite ou pas. Et à ce moment-là, l'auteur écrit la suite de l'histoire ou s'arrête là.
C'est ça. En fait, Hugo Publishing a une plateforme digitale qui s'appelle Fixia. Et qui en fait propose à des autrices je dis autrices mais ça peut être des auteurs, mais vous avez raison, c'est comme des autrices qui viennent écrire leur roman, et au fur et à mesure du suivi et de l'appréciation par des notes, enfin par un système de notation.
The Voice version roman.
Exactement, c'est exactement ça. Et si l'auteur va jusqu'au bout parce qu'elle a l'adhésion de son lectorat, le livre sera publié chez Hugo. Et en fait, c'est ce que je vous dis. Enfin, c'est une communauté, comme une communauté qu'on peut avoir sur le manga. C'est vraiment des gens qui sont fans ces univers.
Vous restez avec nous, Marion Corvelaire-Glénat. Vous êtes la présidente du directoire des éditions Glénat. Vous allez donner des conseils. C'est votre expertise d'entrepreneuse dont on a besoin, avec une entrepreneure qui se lance dans des coffrets de livres pour les enfants. Restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante. C'est une experte aussi. Aujourd'hui, c'est Marion Corvelaire-Glénat. Vous êtes la présidente du directoire des éditions Glénat. Toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un projet qui a été lancé il y a 2 mois. Bonjour, Émilie Pinchot.
Bonjour.
Vous avez 36 ans, vous êtes toulousaine et vous êtes la fondatrice de Little Totem. Ce sont des coffrets pour les 0-10 ans. Vous avez fait les Beaux-Arts dans les études, en illustration, puis le CELSA. Et quand vous êtes partie vivre à Berlin, vous avez monté là-bas une librairie jeunesse en 10 langues. Ça a été un carton. Vous êtes revenue en France au moment du confinement, du Covid. Et la suite, vous allez nous la raconter. Ça s'appelle Little Totem et vous avez une minute.
Alors je reprends, donc les box Little Totem, ce sont des box de livres mais pas que, à destination donc des enfants de 0-10 ans. Et c'est vraiment la prolongation de ma librairie à Berlin qui était une librairie mais aussi un lieu de vie en fait, dans lequel il y avait un endroit qui était dédié aux familles, des canapés, de quoi jouer. C'était pas une librairie classique dans laquelle on doit aller tout doucement. Il y avait beaucoup d'activités autour de la créativité parce que pour moi le livre est vivant en fait, et surtout le livre illustré en fait, il a une autre existence que juste les livres. Donc dans ces box on trouve deux livres, toujours adaptés à une tranche d'âge ou à des capacités de lecture et de compréhension, et un livret thématique qui vient éclairer le thème de la box. On a aussi des cartes, on a beaucoup de contenu numérique, notamment des podcasts, parce que le podcast, c'est une nouvelle manière aussi de transmettre du savoir et des informations aux enfants.
Donc, et c'est voilà. Fini. Et c'est mais il y a tellement déjà. De choses. Vous en avez apporté une oui. Qu'on peut voir là si vous nous suivez sur Europe1.fr. Donc à l'intérieur, on a Boubou et ses amis. C'est un livre.
Alors là, c'est un exemple ouais, pour les grands.
La dormeuse pour les bébés. Oui, pour les tout petits, parce que vous avez plusieurs sortes d'univers que vous proposez dans vos coffrets. Vous avez la box chat, la box naissance, la box rêveuse pour plonger dans cette thématique du rêve et l'imagination.
Ouais. Alors on a lancé avec une campagne de crowdfunding donc sur Ulule où l'ensemble des gens peuvent montrer un peu leur intérêt pour un produit. C'est une manière de tester le marché et l'appétence des gens. Ça a très bien fonctionné et on avait décidé de lancer donc trois box différentes. La rêveuse autour de l'imagination et du rêve. Une box plus, on va dire, thématique de la vie quotidienne, les chats. Et la troisième, c'est une box pour la naissance et elle s'appelle Naissance. Donc, c'est pour accompagner l'arrivée d'un enfant dans une famille.
Qu'en pense Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie? Quelles sont les forces et les faiblesses de Little Totem?
Alors, vous l'avez dit, vos confrères sont en fait très complets. C'est finalement un ensemble d'activités. Il y en a même pour les parents, puisqu'on a un podcast rien que pour nous. Bravo pour votre sélection pour tous les âges et le classement qui nous aide. Vous avez un jeu gazouille pour les 0-2 ans jusqu'au jeu bouquin pour les 8-10 ans. Puis votre prix, 39,90 €, c'est parfait pour un cadeau de naissance ou d'anniversaire, et ça change un peu de la pluche en fait. Alors quelques suggestions, d'abord quelques propositions pour mieux valoriser le coffret. Sur la boutique, quand vous présentez vos coffrets, montrez en quoi vos livres ont des contenus différents, montrons quelques pages par exemple. Là en fait on n'a que votre parole sur le fait qu'il soit plus inclusif, etc. Votre box contient des audios, expliquez sur quoi émettez un extrait, parce que quand on commence à lire des livres à nos enfants, en fait on n'a pas envie de sous-traiter à un audio. Puis vous avez mis un QR code, j'ai testé, mais je suis tombée sur une page Wikipédia de Luke Skywalker. Donc je pense que ce n'est pas ce qui est dans le coffret. Donc mettez des extraits. Expliquez pourquoi l'ensemble des produits qui composent votre coffret, en fait, ça a du sens d'acheter en coffret, d'acheter l'ensemble. C'est pour ça qu'ils sont vendus ensemble. Sinon, on pourrait juste acheter un bouquin pour finalement moins cher. Et puis, si votre système d'aide au choix, je gazouille, je popote, etc. est vraiment super, quand on veut choisir un coffret, on ne comprend pas en fait ce qui change dans la composition du coffret en fonction de la version qu'on achète. Ensuite, vous valorisez les maisons d'édition avec lesquelles vous collaborez. C'est vraiment super. Mais du coup, si on veut juste acheter un livre, on risque de se détourner de votre site pour aller dans cette maison d'édition. Donc, soit vous négociez une commission d'apporteur d'affaires avec ces maisons d'édition, soit vous proposez tous vos livres préférés à la vente sur votre site. Entre nous, on les trouve aussi sur Amazon. Et puis, clin d'œil à ce que vous dites sur votre site. Et puis, vous dites que vous voulez mettre KO les stéréotypes et apprendre à nos enfants à s'engager, par exemple. Mais expliquez. Personnellement, j'ai beaucoup lu Cornebidouille à mon fils.
Oui, moi aussi.
Voilà.
On l'a tous.
On l'a tous.
Ah, Cornebidouille.
Absolument.
Ou bien les histoires du dragon George qui veillait sur sa princesse. Est-ce que j'ai mis mon fils dans des stéréotypes? Pour nous aider à y voir clair, enrichissez votre blog en faisant parler des psychologues, par exemple, qui décryptent, ce dont vous parlez, qui nous aident à faire le bon choix, tant pour les livres que pour d'autres activités, par exemple. Enfin, vous voulez être une solution complémentaire aux librairies, alors peut-être que petit à petit, vous pourriez proposer aux librairies qui proposent des ouvrages que vous recommandez de créer des animations au sein de leur lieu, webinaires qui décryptent la lecture des enfants, des auteurs, des parents qui changent entre eux, bref. Petit à petit, Little Totem sera l'expert des activités de lecture et d'éveil des enfants et des parents engagés.
Elle est brillante, hein.
Ah ouais, c'est
bravo,
très joli.
Elle a tout compris.
J'aurais continué à écouter longtemps.
Ah ouais, bah c'est ça, chaque jour, on nous dit ça. Marion Corveller-Glénat, présidente du directoire des éditions Glénat, vous avez un œil très précis hein, par rapport à ce que propose Émilie Pinchot pour Little Totem. Qu'en pensez-vous ?
Mais je trouve que c'est une très bonne idée parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde n'a pas une librairie à côté de chez soi pour aller choisir des livres pour ses enfants.
Pas mal, là, le coffret arrive à la maison.
Il y a une offre pléthorique. On s'y perd d'ailleurs en rayon jeunesse. On ne sait pas quel conseil et puis on n'a pas toujours du conseil suffisant en librairie. Donc je trouve que c'est super. C'est une expérience de confiance. Au fur et à mesure, vous allez avoir... une communauté, on en parlait tout à l'heure, de gens qui vont suivre et qui vont aimer vos livres. Et puis, peut-être qu'un jour, vous demanderez à des éditeurs de vous faire des livres que pour vous.
Ah, ce serait bien ça, cette belle évolution.
Ça voudrait dire devenir éditrice.
Pourquoi pas avec Glénat. On va vous laisser parler hors antenne. On a donné les prix de la box.
39,90
tous les deux mois. Ouais. Merci à vous, Émilie Pinchot, d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge nous présenter Little Totem, hein, ces coffrets de livres envoyés à la maison pour les 0-10 ans. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse.
e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, juré, Charlotte Barricon et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est déjà la dernière partie de votre émission. Vous vous rendez compte, Nathalie Carré, comme
toujours,
ça passe vite.
Toujours trop vite.
Ça passe hyper vite. La France bouge. Nous sommes toujours avec Marion Corveller-Glénat, présidente du directoire des éditions Glénat. Et dans La France bouge, on aime mettre en avant ces parcours de vie professionnels, des parcours qui nous inspirent, qui nous étonnent. Et on va en parler avec vous, Sylvaine Pia. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 48 ans et alors on peut le dire, vous avez eu plusieurs vies professionnelles. Vous avez une formation en gestion finance et dans les ressources humaines. Vous avez eu un parcours passionnant pendant 20 ans. Vous avez fait de la gestion d'hommes et de projets. Donc vous avez travaillé dans les ressources humaines. Et en 2014, là, ça a basculé et vous avez senti que c'était peut-être le moment de passer à autre chose.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, en 2014, déjà, c'est la naissance de mon quatrième enfant. Mmh. Et j'étais encore en entreprise, comme d'habitude, en ressources humaines, où je maîtrisais totalement mon sujet. J'étais dans une zone de confort total. Mmh. Et l'entreprise se passait... l'entreprise commençait un petit peu à pas bien aller. On était près d'un...
certainement
d'un licenciement collectif et d'un plan social. Voilà. Donc, comme j'étais la dernière arrivée, j'allais être la première sortie. Et là, je me suis posé la question, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recommence encore la même chose dans une autre entreprise ? Ou est-ce que je change complètement de vie ? Et je n'ai pas eu besoin de poser longtemps la question, puisqu'en fait, on avait un projet familial qui a démarré au même moment et qui devait se passer très bien, très facilement, avec plein de gens qui s'occupent à ma place... de ce projet qui était juste détruire une maison pour construire un immeuble.
Ok, donc le projet, c'était construire un immeuble
familial. Faisons très simple. Et donc, ça devait très bien se passer, c'est ce qu'on m'avait dit. Et bien, ça ne s'est pas du tout passé comme on le croyait. Et du coup, en fait, dès la première semaine, j'ai dû carrément revêtir le costume de chef de chantier, sachant que je ne suis absolument pas manuelle.
Donc, vous avez mis le casque et tout. Et là, vous avez dit, je vais aller tous les jours sur le chantier.
Je me suis dit, bon, à partir du moment où on est capable de faire des choses comme ça, alors que je n'y croyais pas moi-même en moi, je me suis dit, reprenons les vieux dossiers qu'on a laissés de côté parce qu'on n'y croyait pas non plus. Et j'ai remis à jour toute la partie créativité.
Qui était enfouie. Souvent, notre partie créative, elle est enfouie. Et là, c'était le moment de la faire sortir. Voilà.
Exactement, et on en a besoin.
Et vous avez écrit un roman que vous aviez en tête depuis l'âge de 20 ans.
Exactement. Alors, j'en ai sorti d'autres, hein, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai poussé un peu le bouchon sur ce livre parce que j'ai décidé de le faire, de le rééditer cette année en roman illustré. Ça s'appelle Kevin s'enfuit. C'est un roman basique sur une histoire d'amour, mais elle se passe à l'époque gauloise. Je me suis dit que pour les enfants, ça pouvait être sympa d'avoir un livre qui parle autre chose que de dragons, même si j'ai rien contre les dragons.
Ouais, attention, on a Madame Glénat.
J'adore les dragons. Bouge, hein. Personnellement, si je pouvais en adopter un, je ferais. Mais je me suis dit, on va mettre un petit peu d'histoire parce que je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans l'éducation actuelle. Et c'est que les enfants lisent et s'intéressent à l'histoire.
Et aujourd'hui, vous êtes heureuse. Quels conseils pourriez-vous donner à des auditeurs, des auditrices qui ont envie aussi de changer de vie professionnelle ?
Alors déjà, il ne faut pas avoir peur, parce que, et puis il ne faut surtout pas avoir peur d'avoir une grande flexibilité. Parce que la différence entre le monde salarié et le monde où on est à son compte, hein, parce que clairement, je suis à mon compte maintenant en tant que gérant d'une entreprise, c'est la grande flexibilité. Et vous êtes en première ligne.
Et voilà, c'est ça la France bougeant. On recrute, on a des reconversions professionnelles. On ose, hein, surtout.
On ose.
C'est ce que l'on retiendra de cette France bouge. Merci Marion Corvée-Lerglena.
Merci à vous de votre
présidente
accueil.
Présidente du directoire des éditions Glénat. Nathalie Kéheret, merci. On se retrouve demain dans un instant le Flash, suivi de Christophe Ondelatte.